Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Mathieu Gallet.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis avec Mathieu Gallet que vous connaissez parce que si vous lisez Capture Mag depuis maintenant 8 ans, bon, c'est vrai qu'on n'écrit plus trop en ce moment, mais.
Ouais, voilà. sur ce sujet-là, plus trop. Mais...
Il a beaucoup écrit sur le jeu vidéo notamment, il a beaucoup écrit sur des séries B, les films en DTV. Donc je suis avec Mathieu Gallet et c'est toi qui as choisi le film d'aujourd'hui.
Exactement.
Moi, j'avais même pas entendu parler du truc, malgré le gros bourrin que je suis, tu vois. Avengement,
voilà.
J'ai envie de dire un film de Jesse V. Johnson,
ouais.
Mais moi, j'ai envie de dire un film de Scott Adkins.
Oui, puisque la star du film, c'est plus sa star que son réalisateur. D'ailleurs, merci Stéphane de me donner l'opportunité d'en parler.
De parler de Scott Adkins, voilà, de ton kink pour Scott Adkins.
Voilà, j'aime beaucoup Scott Adkins, j'ai une grosse affection pour Scott Adkins. Déjà peut-être présenter
Scott Adkins, parce que le truc c'est que quand on fait un épisode de Stéroïdes, on n'a pas besoin de présenter Stallone pour les gens qui nous écoutent. Mm-hmm. Normalement, je pense qu'on n'a pas besoin de présenter non plus trop Scott Adkins. Les gens qui s'intéressent au cinéma d'action connaissent un peu, mais c'est bien en fait de donner, parce que c'est des films beaucoup moins connus.
Oui.
Donc, c'est bien de donner quelques titres, quelques genres.
C'est
voilà.
Du direct ou vidéo.
C'est du direct ou voilà. Netflix.
Netflix
même,
maintenant, ouais. Effectivement, qui remplace les services de streaming et tout. Alors qui est Scott Adkins? Scott Adkins est un acteur anglais qui se met aux arts martiaux à peu près à l'adolescence, vers 13-14 ans, et qui du coup devient un praticien aguerri d'arts martiaux. Alors il a été formé notamment au taekwondo, au kickboxing, mais il a fait aussi différentes disciplines comme le karaté, le wushu, le muay thai, le ninjutsu, etc., etc. Et il devient prof, entre autres, et il finit par se faire repérer par le cinéma hongkongais. Et il commence sa carrière à l'orée des années 2000 en faisant le troisième figurant à gauche qui va se faire tabasser par la star du film, dans des trucs, notamment il a fait des trucs avec Jackie Chan, alors pas forcément les plus glorieux puisqu'il s'est retrouvé dans des trucs comme The Accidental Spy ou le Médaillon, où il avait fait Black Mask 2 aussi de Choi Ark. Voilà, il commence là-dedans, donc en tant que voilà, cascadeur qui se fait rosser par le héros.
C'est passé aussi vers les films occidentaux, quoi.
Voilà, alors après, il a fait des séries télé aussi en Angleterre. Mmh. Il s'est retrouvé dans des trucs comme EastEnders et des choses comme ça. Mmh. Et puis, son big break, quoi, la révélation, c'est quand il se retrouve, fin des années 2000, à jouer le méchant dans la suite DTV du Undisputed de Walter Hill. Où le rôle tenu par Ving Rhames, je crois, dans l'original, a été repris par Michael J. White, autre grande star du DTV d'action. Et lui, Scott Adkins.
Déjà un peu plus connu parce qu'il
avait
fait Spawn
aussi. Il avait fait Spawn aussi.
Spawn, et puis c'est le méchant de Universal Soldier
voilà.
2.
Oui, tout à fait. Et donc, Adkins s'est engagé pour jouer le méchant Yuri Boyka, qui est un prisonnier russe et kickboxer aguerri. Alors le film se fait une petite réputation pour ses scènes de fight assez bien foutues. Et effectivement, Adkins est très remarqué puisqu'on remarque un mec qui est très très athlétique, un kicker assez aguerri et tout. Et c'est le début de sa relation avec donc le réalisateur Isaac Florentine, avec qui il va faire ensuite donc plusieurs films en DTV qui vont être assez remarqués, notamment Ninja 1 et 2. Et à partir de là, donc à partir de ce film-là. Il démarre une vraie carrière donc d'acteur qui va alterner donc régulièrement entre des films en DTV où il est la vedette incontestable, et notamment il va faire plusieurs suites, deux suites à Undisputed où c'est lui qui devient le personnage principal, donc notamment le troisième Undisputed 3 Redemption où là il prend le personnage principal, il y en aura un quatrième ensuite. Et puis ensuite, et en parallèle de ça, il se retrouve à jouer les seconds rôles dans des grosses prods hollywoodiennes, alors soit à être utilisé comme gros bras dans Bourne Ultimatum, dans
Expendables 2,
il fait le second de Van Damme, du méchant joué par Van Damme, et il a un fight final avec Jason Statham. Il est dans Doctor Strange aussi et tout ça. Je sais pas, en gros, c'est pas un rôle très intéressant pour lui d'ailleurs. Et puis Wolverine aussi, puisque c'était lui qui faisait l'espèce de Deadpool mutant à la fin, qui parle pas.
Oui, c'est vrai.
C'était
c'est
lui
vrai,
qui jouait ouais. ça. Et des fois des petits rôles où il fait moins le, où il met pas de kick, mais par exemple il est dans Zero Dark Thirty.
Ah oui.
Puisque c'est lui, il est dans la scène de l'attentat sur la base, c'est lui qui est, il vient des soldats qui est Paul, le personnage.
Après le truc c'est qu'il a une très grosse répute de kicker en fait. Oui. Même les gens qui du métier en fait, on dit voilà c'est un vrai combattant, il sait se taper.
C'est un vrai artiste martial quoi, multidiscipline et c'est aussi pour ça qu'effectivement il s'est fait cette réputation en DTV et je pense qu'aussi ce qui a joué sur sa réputation, c'est que il a commencé sa carrière d'acteur de DTV à un moment où les films d'action hollywoodiens étaient encore en plein dans cette mode post-Bourne du shaky cam, du montage un peu syncopé, épileptique et tout ça où on comprenait rien. Il y avait chez les fans d'action, je pense, une vraie frustration à ne pas avoir des fights, notamment pour les mano à mano, où on comprenait à peu près ce qui se passait. Et c'est vrai qu'effectivement, je pense à des trucs comme la baston en main nue dans le deuxième Bourne, qui est une espèce de bouillie absolument incompréhensible.
Même dans le premier. Hein.
Oui, non, mais oui.
Je me rappelle de la baston avec Nicky Naude.
Oui, oui, voilà.
C'était pas terrible. C'était pas très bien filmé. C'était pas Greengrass.
Oui, c'était Doug Liman à l'époque. Ouais. Et donc, effectivement, quand Undisputed 2 est arrivé, on a vu tout d'un coup, les mecs se refaisaient à faire des plans longs, à souligner l'impact par le montage, à vraiment vouloir montrer les coups et les chorégraphies. Et ce type-là était athlétique, faisait des coups de pied tournants à 540 degrés. Donc voilà. Et donc il a mené. Donc voilà, il mène sa barque avec avec cette alternance, avec 2-3 DTV par an et tout. Et bon, alors je pense qu'effectivement c'est un mec qui probablement mériterait d'avoir peut-être un vrai film de cinéma qu'il mettrait en valeur, parce que effectivement dans l'univers du DTV, certes il est une star incontestée, mais bon il végète un peu quoi, c'est-à-dire que les films ont tendance à être un peu similaires.
Voilà, c'est une star incontestée, j'ai envie de dire aussi c'est quelqu'un qui vend.
Oui.
Est-ce qu'il pourrait
faire ça sur un truc à plus gros budget sorti en salle? Oui, ça reste, c'est une question qui reste à prouver.
Je pense que c'est même plus en fait à l'ordre du jour.
Parce qu'effectivement, il est sur ce genre, il est sur une échelle, une logique de production. Qui n'est plus celle de l'industrie hollywoodienne. Alors effectivement,
si ce genre de film se faisait aussi, je pense aujourd'hui, pour sortir en salle, ça se disait chercher les vieux. Ouais. J'ai cherché les Van Damme, les mecs comme ça pour les foot. C'est pour ça d'ailleurs que Expendables a fonctionné quelque part. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu les mets tous ensemble et voilà quoi. Mais là, le truc avec le film d'aujourd'hui, c'est que c'est un film un petit peu différent. C'est-à-dire que bon, là, tu as cité quelques titres, Undisputed, tout ça. Il y a aussi des trucs de Ninja. Hein, donc,
oui, Ninja 1 et 2, aussi ouais, fait avec Isaac Florentine.
Voilà, qui sont quand même des trucs un peu plus qui renvoient plus à la canon.
Oui,
là,
on est vraiment
ça. Pas fait comme ça, hein, c'est un peu plus solide, mais ça reste. En fait, ça renvoie dans l'esprit des gens.
C'est de la série B d'action. Quoi,
voilà, à certains cinémas.
Scénario prétexte, où en gros, l'idée, c'est plus de te balancer une scène d'action toutes les 10 minutes.
Je fais la distinction parce qu'Avengement, la façon dont le film est vendu, en tout cas moi tu m'en as parlé, je suis allé du coup vérifier ce que c'était, et puis parce que je ne savais pas ce que c'était, je suis allé vérifier et du coup je suis allé voir le film sur Netflix, hein, il est disponible sur Netflix
voilà.
Et pour le coup normalement quand on diffusera il sera encore sur Netflix.
Oui, je crois que c'est, ils sont diffuseurs du film chez nous, donc il y a a priori pas de
et ça se voudrait un peu plus, alors en tout cas la façon dont c'est vendu, même s'il y a beaucoup de bastons, comme un drama. Moi j'aimerais bien que tu pitches le film.
Alors je pitche le film avec plaisir. Donc, dans celui-ci, Scott Adkins interprète donc le rôle de Kane Burgess, qui est donc un petit boxeur anglais de la East End londonien, quoi, qui veut monter sa propre salle de gym, et pour cela va faire appel à son frère, qui est un gangster, un prêteur sur gage, en fait, un usurier. Et il est un peu en situation de disgrâce parce qu'il était censé perdre un match qu'il n'a pas perdu. Il a fait perdre beaucoup d'argent à son frère et à ses associés. Son frère accepte de lui prêter cet argent.
Il s'est pas couché en fait.
Voilà, il s'est pas couché, c'est ça. Il a voulu faire réaliste et il a étalé son adversaire en fait au lieu de se coucher. Et donc son frère accepte de faire une entorse à son règlement et de lui prêter de l'argent en échange d'un service rendu. qui doit aller braquer une dame qui va aller récupérer un paquet auprès d'un des associés. Malheureusement, ça tourne mal. La dame en question ne veut pas lâcher l'affaire, le poursuit, se fait percuter par une bagnole, lui est arrêté par la police, il est envoyé en tôle parce qu'il refuse de collaborer avec la police pour faire plonger son frère. Et à peine arrivé en tôle, il devient immédiatement la cible de tout ce que la prison compte
de détenus
et de psychopathes et de grosses brutes, hein, puisqu'il se fait envoyer dans une des pires prisons, même s'il n'a pas de casier judiciaire, il se fait envoyer dans une des pires prisons d'Angleterre, dans un quartier de haute sécurité. Et donc, il se retrouve à devoir se battre quasiment tous les jours pour survivre. Et en fait, ça, on le découvre en flashback, puisque le film est structuré en flashback, puisqu'en fait, ça commence par son évasion. Et il va dans un pub prendre en otage les mecs du pub, les tenanciers du pub, enfin, les clients du pub, qui sont tous partis de la bande de son frère, pour faire venir son frère et donc se venger, puisque il a dû devenir un espèce de psychopathe dénué d'humanité pour survivre à la prison.
Alors, il y a deux trucs. Donc, en fait, ce qu'on disait, moi, quand je regarde la bande-annonce, les mecs, ils ont un fort accent anglais.
Oui,
on
est clairement dans le truc de gangster de l'East End de londonien.
Voilà, c'est ça. Et en gros, tu te dis, ça pourrait tout aussi bien être un drame avec de la baston, hein, parce qu'il ne faut pas déconner, il faut le vendre aussi, quand même les atouts de Scott Adkins, quoi. Mais ça pourrait tout aussi bien être un drame. Et d'ailleurs, le film commence sur Scott Adkins qui se rend à la morgue, en fait, enfin pas à la morgue mais à l'hôpital à la base pour voir sa mère
qui est malade d'un cancer, et il arrive trop tard
elle est morte.
Voilà.
Première scène du film, il est devant le corps de sa mère, tu sens qu'il est meurtri et tout. Deux secondes après,
il y a un cut au noir sur l'apparition du titre, et on entend des bruits de baston et on le voit qu'il sort de l'ascenseur après avoir étalé les deux flics qui l'accompagnaient.
Ce qui donne le ton, donc c'est un gros film de bourrin, pas du tout un drame.
Oui. Alors, ce qui est marrant, c'est que donc le pour la structure du film, le réalisateur et co-scénariste du film, Jesse V. Johnson, dit s'être inspiré quand même du Harakiri de Masaki Kobayashi pour l'idée de ce personnage qui en fait va se rend dans un lieu en disant j'ai un but et va en fait révéler que son but est complètement différent. Évidemment, c'est une inspiration très légère. Hein, on va pas prétendre que c'est la même chose.
Et puis, je pense que ça fait bien de dire qu'on s'est inspiré de ça. Oui. Ça renvoie un peu à Sergio Leone qui s'est inspiré qui s'est inspiré de Kurosawa, en fait, si tu veux, pour une poignée de dollars, quoi, de garde du corps, Yojimbo, quoi. Donc le truc, en fait, c'est que
on va pas se mentir, on n'est pas au niveau. Hein.
Voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais on est au niveau de Leone, on n'est pas au niveau de Kurosawa, on n'est pas au niveau de Kobayashi non plus, quoi. Mais voilà, justement, le truc, c'est que ce réal, il a aussi un gros parcours derrière lui, qui n'est pas un parcours de réal. Il a fait pas mal de films, hein, en l'occurrence.
Alors, il a Jesse V. Johnson, donc c'est un type qui est cascadeur à la base et qui a quand même bien roulé sa bosse dans le cinéma en tant que cascadeur, puisqu'il a bossé, il a un CV quand même qui est assez impressionnant en tant que cascadeur, puisqu'il a bossé entre autres sur Mars
Attacks.
J'aime
bien, t'as tes petites fiches.
Ouais, j'ai mes fiches, ouais. Je suis un fichiste. Donc il a bossé sur Mars Attacks, Starship Troopers, Charlie's Angels, Terminator 3, Avatar, Tintin, plein de trucs comme ça. Et il était aussi également coordinateur des cascades sur la partie de tournage du Beowulf de Zemeckis. Celui de Lambert, celui de Zemeckis. Et il réalise, il est passé réalisateur depuis, il a fait un premier film en 99, mais après il était réalisateur que de façon très intermittente jusqu'en 2017. Où là, il devient réalisateur à plein temps et il enchaîne pas mal, puisqu'il a fait 8 films depuis 2017, dont plusieurs avec Scott Adkins, puisque Avengement est leur 6e collaboration. Ouais. Ils en ont encore en fait un depuis. Tu vois, donc, ils
ça vaut quoi les autres, vite fait hein.
C'est moins bien.
Ah, c'est moins bien que ça.
Non, il y en avait.
C'est vrai qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur la qualité du film, mais on va y revenir.
Non, mais c'est, leur premier truc, c'était Savage Dog. Qui était une espèce de film de baston où il jouait un soldat qui fait des bastons illégales.
C'est vrai que le film de suivant, c'est un film de baston aussi.
Oui, mais c'est beaucoup de films de baston. Mais ils ont fait des trucs un peu différents. Ils ont fait notamment une adaptation de comic book.
D'accord.
Parce que Accident Man, qui est l'adaptation d'un comic book signé Pat Mills, un des auteurs de 2000 AD, pour ceux qui connaissent les comics anglais. Mais c'est vrai qu'on reste quand même dans un domaine qui permet surtout à Scott Adkins de mettre des kicks. Mais ils essayent des trucs un peu différents.
Ça se voit un peu différent.
Mais ils avaient aussi essayé des trucs. Ils avaient fait un film qui s'appelait The Debt Collector, qui était aussi, même avec de la baston, un peu plus axé sur les personnages et le duo qu'ils formaient avec Louis Mandylor, sur lequel ils jouaient deux récupérateurs de dettes, justement. Mais là, on est effectivement dans un truc où, même si le but, c'est quand même de balancer une scène où où Atkins va mettre des poings dans la gueule, ou des pieds d'ailleurs, à intervalles assez réguliers. Il y a une volonté de faire un truc un peu plus dramatique, alors qui marche dans les limites, pour moi, dans les limites de l'exercice, puisqu'on reste quand même sur un truc qui dure une heure et demie, hein, moins d'une heure et demie, donc on n'est pas dans, dans l'exercice de construction dramatique particulièrement élaboré, mais ils essayent quand même de donner un petit arc au personnage, de jouer sur une forme d'ambiguïté morale, de montrer la déshumanisation progressive du personnage via notamment la transformation physique, puisqu'en fait, dans le, il arrive en tôle, il a la tête de Scott Adkins, quoi. Donc relativement.
Moi, pour moi, il sort de tôle, il a la tête de Scott Adkins. Hein.
Oui, mais
avec vaguement une cicatrice et des dents pourries.
Il s'est fait napalmer la gueule, il s'est fait péter les dents, il s'est pris une cicatrice, voilà.
Mais le truc, c'est qu'il y a deux choses en fait qui sont éventuellement intéressantes, je trouve, dans le film, et qui, moi, je trouve, sont pas exploitées à fond. C'est que t'as d'un côté, bon, t'as la structure
en flashback
où tu sens qu'ils ont essayé à l'écrit.
Ouais.
De structurer quand même les révélations, sauf que les révélations sont pas hyper intéressantes en soi.
Non, c'est vrai qu'on reste quand même dans un truc assez programmatique de la série B d'action, quoi. C'est-à-dire
ils auraient gagné. Voilà. Moi, je pense qu'ils auraient quand même gagné à la raconter de manière
plus linéaire,
parce qu'en fait, c'est créer un espèce de suspense qui est pas vraiment intéressant, parce que voilà, enfin, à un moment donné, je pense que dramatiquement parlant, ça aurait mieux fonctionné si on avait la logique progressive des deux frères qui peuvent pas s'encadrer, puisque c'est ça le
truc. C'est ça aussi, c'est aussi un drame fratricide. Ouais.
Voilà, et le deuxième point.
Je mets des gros guillemets.
Voilà, oui. Sur les deux mots d'ailleurs. Parce que, voilà. Mots, oui. Mais t'as le deuxième point, en fait, qui pour le coup aurait pu être un peu plus rigolo, je trouve, dans le film, même si c'est assez bourrin. Hein, c'est le fait que le mec arrive en tôle et il essaye d'expliquer à tout le monde que, enfin, tout. Les taulards lui tombent sur la gueule et personne se pose la question de pourquoi.
Alors, je spoil, c'est parce que son frère a mis une prime sur sa tête.
C'est ça. Mais le truc, c'est que justement, le truc aurait été intéressant, et là je parle vraiment en termes de dramaturgie, c'est en fait de créer des combats de plus en plus gros, de plus en plus machin. Sauf que très rapidement, le mec se fait éclater les dents,
c'est la première baston.
C'est la scène la plus dégueulasse du film, moi, je trouve. Tu vois, c'est vraiment le truc.
Le film vous montre ce que American History X ne vous a pas montré, pour le coup.
Ouais, mais bon, après, est-ce que c'était vraiment nécessaire, j'ai envie de dire, si tu veux. Bon, peut-être les gros bourrins qui nous écoutent diront que oui, mais moi, je trouve ça vraiment. Voilà.
Ouais, ça fait mal.
Et ensuite, si tu veux, bon, bah, il se fait napalmer la gueule, etc. etc. Mais disons qu'en fait, il n'y a pas une montée en puissance, en fait, sur les bastons, parce que tu sens que c'est des trucs. C'est là aussi où le film, je pense, il souffre de son budget, c'est-à-dire que c'est un budget quand même limité.
Ouais, c'est un truc qui a été tourné en 17 jours, hein, faut le préciser quand même.
Et en gros, si tu veux, bon, bah, en gros, c'est baston sur baston sur baston, ça c'est clair, hein, c'est assez généreux là-dessus, mais sans véritable, je trouve, et c'est, je pense, moi, le gros problème du film, c'est-à-dire que série B ou pas, tu vois, enfin, je veux dire, moi, j'ai pas de problème avec cette dénomination, série B ou pas, je pense que ça aurait mérité, en fait, de remettre un peu d'ordre là-dedans et de se dire, ok, on a une première baston
qui est
là,
faire
un truc plus linéaire, et surtout plus monter en crescendo. Ouais.
Alors, pour moi, il y a un crescendo, parce que la baston finale, on est un truc où là, il va littéralement se fighter contre 10 mecs d'un coup et démolir tout le pub qui est le lieu unique où l'action se déroule, quoi.
Voilà.
C'est un film qui effectivement est très construit aussi en fonction de ses limitations de budget, puisque le choix du décor unique avec
certes,
des petits trucs,
certes,
voilà, c'est aussi
vois,
c'est
bien
aussi,
sûr. Et puis ça aurait été chiant d'avoir 25 minutes de fin ou 30 minutes de fin
dans le bar,
pub,
voilà, dans
ça, aurait
pub aussi,
été, ouais. ça aurait été chiant aussi. Mais bon, je pense que un scénar, ça coûte rien. Et en fait, voilà, ils peuvent aussi réfléchir ça là-dessus. Ils tournent beaucoup, les gars.
C'est des staccanovistes. Hein,
voilà, donc ils tournent beaucoup. Donc je pense que.
Mais c'est aussi, ils sont aussi dans une économie qui nécessite ça, quoi.
Totalement, mais voilà. Et en fait, c'est un mec d'ailleurs en fait assez intéressant là-dessus, Scott Adkins, parce que c'est, pour le coup, c'est un mec qui aime vraiment ce qu'il fait,
ouais,
je pense.
Ouais, il est très.
On n'en a pas parlé,
très,
mais
voilà.
il a un podcast. Ouais. Vidéo même.
Ouais,
en fait,
il a lancé, il a une chaîne YouTube où alors vous pouvez trouver. Alors il met de tout, hein, il met des bandes annonces de ses films, il met des vidéos où il parle de ses films, il met des tutoriaux de baston,
il se vend. Truc, c'est qu'il a...
Mais là récemment, du fait de la pandémie, il a lancé une série qu'il a appelée The Art of Action où il fait des interviews vidéo. Alors bon, c'est dans la forme, c'est un peu limité puisque c'est de la discussion
Skype,
par Zoom, par Skype, voilà. Mais il va chercher des noms emblématiques du cinéma d'action pour faire des interviews, des longues interviews. En moyenne, on est sur des formats entre 45 minutes et une heure, où ils vont revenir sur leur carrière, leur début, leur vision de l'action, comment ils ont tourné certains trucs et tout ça. Et il en est déjà à 16 épisodes, pour un truc qu'il a lancé il y a 3-4 mois, je crois.
Et il y va aussi.
Ouais. Bah, ils ont rien à faire. Hein. De toute façon, tous les tournages sont, sont interrompus. Donc, voilà, ils
et puis il a le carnet d'adresse.
Alors, il a beaucoup de gens. Il n'a pas forcément rencontré tous les gens avec qui il a, interviewé, mais ils savent qui c'est. Et donc, il a fait une liste non exhaustive. Il est allé interviewer Dolph Lundgren, Mark Dacascos, Cynthia Rothrock, et puis même des mecs un peu moins connus, mais qui ont fait aussi le cinéma d'action, comme Benny Orquidez, qui était l'adversaire de Jackie Chan dans deux bastons hyper marquantes dans Soif de justice et Dragons Forever. Il est allé interviewer Richard Norton, Tony Jaa, Marcos Arroyo, qui est une star du cinéma d'action chilienne, qui était son adversaire dans Undisputed 3. Donc voilà, c'est super intéressant. On peut conseiller ça si vous vous intéressez au cinéma d'action. Mais il faut parler anglais.
Parce que c'est une heure de conversation.
C'est une heure de conversation en anglais, voilà. Mais ouais, c'est très intéressant. Donc effectivement, c'est un mec qui veut, je pense aussi, faire la promotion du cinéma d'action, et du cinéma d'action qu'on aime, quoi, et que lui aussi, il aime, puisque je pense qu'il était fan de cinéma d'action. Souvent, il parle... Moi, j'ai regardé l'épisode avec Dolph Lundgren hier, et il parle du fait qu'il a vu... d'avoir vu Rocky IV en salle, quoi, d'avoir vu le film une centaine de fois. Quoi.
Parce que c'est un mec qui est plus jeune aussi, ça, il faut le préciser.
Il a la quarantaine.
Ouais, c'est ça, c'est un mec qui est un petit peu plus jeune que toutes ces vedettes.
Qui est encore un peu plus athlétique aussi. Quoi.
Voilà, qui le vend, qui l'interview, je veux dire. Ouais. Mais alors après, voilà. Donc le film se situe un petit peu différemment, Avengement, pour revenir dessus. Quoi. Maintenant, c'est vrai que, moi personnellement, et là je vais te laisser une petite porte de sortie, tu vois, je trouve ça un peu limité, quoi. Toi, ce qui te fait kiffer là-dedans, c'est quoi?
C'est le côté. Déjà, il y a la générosité du truc, quoi, puisqu'effectivement, c'est un film qui te donne ce que tu viens chercher, quoi. C'est-à-dire que tu viens voir. Le film est. En plus, le film est assez vendu, je pense, aussi sur le côté un peu plus bestial du personnage. Et si tu viens voir Scott Adkins qui va défoncer des gueules de manière assez virile, ça te donne ce que tu viens chercher, quoi, pour le coup. Puisque les bastons. Travaille quand même beaucoup l'impact. C'est-à-dire qu'ils essayent toujours de vraiment souligner l'impact du coup dans la gueule. C'est relativement sanglant. Ça y va quand même sur le.
C'est même assez gore, par moment.
Ouais. Déjà sur ce que subit le personnage en prison, quoi. Mais effectivement, tu vas avoir des éclatages de tête au shotgun, des cassages de bras.
Ouais, mais celui-là, il est pas terrible. Enfin, ce passage-là,
c'est un peu cheapos, quoi.
Bah, c'est cheap, et puis surtout, je trouve que ça, c'est un des trucs. C'est-à-dire que oui, c'est gore, oui, c'est violent, mais en fait, je trouve pas ça. Enfin, c'est-à-dire que comme le ton est un peu sombre et noir, mais pas forcément à cause de ça.
Oui,
mais
on est dans un coup, on est sur un truc plus cartonesque.
C'est
mais
pas
je pense
très
qu'après,
fun,
voilà,
quoi,
et je trouve qu'effectivement, le film a sa petite. Réussi à avoir une petite spécificité avec notamment le fait de situer ça dans l'univers des gangsters londoniens. Alors ça pourrait tomber dans le Guy Ritchie, mais on est dans un truc un peu plus
heureusement non,
ça, on évite le côté. Alors même s'il y a des petits moments un peu ironiques, notamment il y a un moment avec un montage où tu vois la façon dont ils s'entraînent en prison pour survivre assez différent et puis alterner avec des bastons et tout ça. Et il y a un moment où ils se retrouvent tout le temps à se retrouver devant le directeur de la prison qui, à chaque fois qu'il se retrouve dans une baston, va lui rallonger sa peine de un an, le col à l'isolement. Et ça commence...
Mais ça, c'est pareil, c'est un peu étrange comme d'ailleurs, ils le réutilisent dans le générique de
oui,
fin.
Oui, ça, effectivement.
C'est un truc où tu te dis, bon, ils avaient du rab. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé.
C'est une scène post-générique, quoi.
Voilà, mais une scène post-générique qui a rien à voir avec la choucroute, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment le film est terminé.
C'est une scène rallongée, en fait.
Voilà, c'est une scène rallongée.
C'est un moment où l'autre lui colle encore un an d'extension de peine et il hausse les épaules en mode. Okay,
genre,
bah, vas-y,
puisque c'est comme ça, quoi. Mais c'est pareil, ce perso qui a pas l'air du tout d'être attaché à la prime qui est lancée sur sa tête, tu vois. A l'air de pas du tout.
Oui, c'est assez fonctionnel. C'est vraiment le côté. On va montrer qu'il en chie. Donc c'est vraiment pour un peu rajouter sur ce qui accable le personnage, où en plus de se faire défoncer la gueule tous les jours en prison, il se voit en plus se mettre à l'isolement. Rajouter. Et ce qu'il joue dans le processus, justement, il profite d'être à l'isolement pour faire son entraînement et s'endurcir. Quoi. Voilà. Et alors, moi, je trouve quand même qu'il y a une petite progression, effectivement, comme on avait parlé. Et je trouve que la dernière baston dans le bar, qui dure quand même, c'est bien entre 5 et 10 minutes, est assez généreuse en termes de variété de chorégraphie, de mobilier éclaté.
C'est le point où ils se sont un peu pris la tête.
Ouais. Bah, ils ont fait. Ouais, ils disaient, j'avais regardé un making-of et Adkins disait. Donc ils étaient sur un planning de tournage assez serré. Il a demandé à pouvoir avoir 2 jours de tournage pour vraiment bien chorégraphier et planifier la scène, quoi. Voilà. Et sur la spécificité anglaise dont je parlais, ça se retrouve donc avec le casting, où ils sont vraiment allés chercher des acteurs typiques. Alors on a Nick Moran qu'on a vu chez Guy Ritchie pour le coup. On a le jeune acteur Thomas Torgus qui jouait le jeune skinhead de This Is England.
Une tronche pas possible.
Oui, oui, qui est assez rigolo. Qui joue un espèce de petit frimeur et tout ça. Et donc c'est très satisfaisant quand il finit par se prendre un coup de boule.
Oui, oui. Bon, il est rigolo. Puis bon, après, à la limite, c'est un des persos qui, je trouve, se détonne un peu. Parce que le problème, c'est qu'ils se ressemblent un peu tous.
Quand même. Oui, surtout les gros bras. Quand effectivement, le frère joué par Craig Fairbrass se ramène avec
Craig
Fairbrass,
alors je pense que c'est pareil. C'est un nom, je pense que si tu connais pas trop. Mais vous. Si t'es pas dans la série B absolue. Tu connais pas
non,
forcément le mec
dans la série
anglaise. Il en a fait plein.
Les trucs anglais,
mais
beaucoup.
C'est un des hommes de main de John Lithgow dans
Cliffhanger. Voilà. C'est celui qui se fait jeter d'une falaise par Michael Rooker après avoir voulu jouer au foot avec lui.
Voilà.
Il y a penalty là.
Voilà. Mauvais geste. Et donc, qui était déjà pas un très bon acteur à l'époque,
mais il a une gueule qui fait peur. Donc,
oui, voilà, c'est sûr, il est grand.
Et c'est ce qu'il disait d'ailleurs. Il disait qu'il fallait un mec pour tenir tête à Atkins. Il fallait un mec qui quand même en impose un peu physiquement. Quoi. Ouais. Il était d'ailleurs, on le connaît aussi, les joueurs de jeux vidéo le connaissent parce qu'il fait beaucoup de voix pour les Call of Duty.
C'est vrai.
C'est
un des doubleurs. Ouais. Alors, si tu joues en anglais, c'est pareil parce que chez nous c'est doublé. Et moi, il y a mon petit préféré. Et j'aime bien sa petite baston d'ailleurs. Alors, Ross O'Hennessy,
un acteur irlandais qu'on a vu se masquer dans Game of Thrones, qui joue effectivement un flic véreux dont voit Scott Adkins va se venger de lui aussi à sa sortie de prison.
Moi, j'aime bien voir se faire défoncer.
Voilà, c'est aussi une grosse baraque. Il y a une baston, en plus la baston se passe dans un truc, une espèce de nightclub, boîte de nuit. Avec un éclairage un peu violet. Esthétiquement, c'est assez sympatoche.
Ouais,
et puis il finit par se faire éclater la gueule à coups de marteau. Donc.
Ouais, voilà, ça change un peu du reste du film. Quoi,
voilà.
Bon, bah très bien. Bah, je pense que les gens vont pouvoir se faire une idée.
Bah voilà, vous pouvez aller le voir sur Netflix. Et puis bah, je vous encourage quand même à aller voir les autres trucs de Scott Adkins. Parce que
alors
c'est
ça,
pas
ça
toujours.
Pas forcément sur Netflix, par contre.
Il y en a quelques-uns sur Netflix. Ouais. Sinon, après, il faut aller chercher du côté des autres trucs de VOD.
Sorti, je crois que les ninjas, ils sont sortis en Blu-ray.
Oui, la plupart des
trucs
sortent en Blu-ray. Voilà, vous avez quand même des DVD. Alors moi, je recommande quand même, si vraiment vous avez que deux films à voir. Voyez les suites d'Undisputed quoi. Même le 2 donc où il est le méchant et le 3 où il a le rôle principal qui est vraiment une chouette série B avec des là aussi assez généreuses, des fights plutôt sympas et 2-3 punchlines qui fleurent bon les années 80 dans Undisputed
ouais,
3.
C'est les années 80.
Ah, on y a fond,
tous ces films là c'est les années 80 Reloaded hein.
Oui voilà. Et puis si ça vous intéresse, guettez les étals de DTV parce qu'il fait pas mal de trucs. On l'a vu dans Hip Man 4 aussi d'ailleurs, tiens, Scott Adkins.
Qui
est sorti en salle. Voilà. On a pu le voir en salle. Si vous avez vu Hip Man 4, il jouait le méchant raciste. Ouais. Le guaylo raciste. Voilà.
Bon, merci Mathieu.
Ben, merci Stéphane de m'avoir invité.
Et merci à tous de nous avoir écoutés. Alors bon, vous pouvez nous suivre sur les trucs habituels. Le truc que j'adore faire à chaque fois, mais Alain me regarde avec ses gros yeux si je le fais pas. Quoi. Donc, vous pouvez nous suivre sur les agrégateurs de podcasts, comme tu dirais, Mathieu. Voilà. Spotify, Google Podcast, voilà, Apple Podcast. Nous sommes aussi sur SoundCloud, nous sommes sur YouTube où nous faisons des vidéos stéroïdes. C'est un peu moins fréquent que les podcasts, mais quand même. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre film.
Et merci Alain la technique bien sûr.
Merci Alain la technique évidemment.
Et Tipeee. Ah, oui.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.